Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose dans le caractère de Jésus. Parce que si on veut connaître Dieu, on peut regarder ce qu'il fait, parce que forcément ça montre des choses. On peut regarder aussi ce qu'il dit de lui-même, et on va voir ça un peu aussi. Mais on va prendre une histoire particulière. Et Louis, est-ce que tu peux mettre le premier verset, s'il te plaît? Là, vous avez un verset en Ésaïe qui dit « Je rappellerai les actes de bienveillance de l'Éternel et les motifs de le louer. » On a passé un petit moment à louer Dieu. Et c'est pas pour rien qu'on le fait. On a des motifs pour le louer. Il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, son peuple. Le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Sa tendresse et sa grande bonté. Ce matin, je vais vous parler de la gentillesse de Dieu. La gentillesse de Dieu. Et pour le faire, on va regarder un événement qui durait peut-être 15 minutes dans la vie de Jésus, mais qui nous dit beaucoup sur lui. C'est une histoire très familière. C'est une histoire qui apparaît trois fois dans l'évangile. Et c'est une histoire où je suis sûre qu'on a déjà entendu beaucoup de prédications. Parce que c'est une histoire qui nous parle. Et c'est souvent pour nous encourager dans notre foi. Donc souvent, on raconte cette histoire d'un point de vue de la personne. Pas Jésus, mais de la personne qui est l'autre personne qui est impliquée dans cette histoire. Mais je veux vous parler de Jésus aujourd'hui. Parce que ça va nous faire du bien. Je suis convaincue. Et quand Dieu a mis ce thème sur mon cœur, il dit, mais Jésus, on a déjà eu quelques prédications là-dessus. Il a dit, non, tu vas répéter. Si moi je le fais trois fois dans l'évangile, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut répéter parfois. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on va parler du bien qu'il a fait dans sa tendresse et sa grande bonté. Donc la gentillesse de Jésus. Donc ce matin, ma prière pour vous, c'est soit une découverte ou une redécouverte de la gentillesse de Jésus. On a tous besoin de gentillesse, de tendresse dans notre vie. Et le monde dans lequel on vit, parfois ça passe un peu vite, c'est un peu dur, il n'y a pas énormément de tendresse quand on regarde autour de nous. Donc l'histoire, c'est, ça se trouve en Marc 5, 21 à 36. Et donc on va le lire ensemble et puis on va sortir quelques petits éléments. Alors, on parle de Jésus, on est vers le début de son ministère. Il n'a pas fait énormément de choses jusqu'à là. Mais il est bien présent et les nouvelles commencent à se faire connaître qu'il y a ce Jésus. Alors, Jésus regardait en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Et dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. En se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Bah, tu vois la foule ? Tu vois la foule ? Qui te presse de tous côtés ? Et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Et pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et puis il y a toute une suite de l'histoire, je vous encourage à aller plus loin, on n'a pas le temps de lire le Nouveau Testament ce matin, il faut quand même cadrer notre temps. Alors, donc cette femme avait la vie dure. Je pense qu'on peut tous être d'accord là, elle avait la vie dure. Il faut savoir que sous la loi de l'époque, sa maladie était motif valable pour son mari de la divorcer. Donc, les règles pour la divorce étaient quand même très strictes. Mais sa maladie, la nature de sa maladie, était motif valable pour son mari de dire « Non, je veux plus de toi ». Sa maladie l'empêchait aussi de participer dans les cultes, à cause aussi de la loi de l'époque. Et donc, elle ne pouvait pas participer dans la vie de la communauté. Donc, c'était quelqu'un qui était très marginalisé. Son mari a dit « bye bye ». Difficile d'avoir des amis quand tu ne fais plus partie de la communauté. Et juste le monde en général ne voulait pas être touché par elle, parce qu'elle pouvait contaminer les gens. Encore une fois, la nature de sa maladie le rendait un peu contagieux. C'était pas contagieux, mais c'était ça dans la tête des gens. C'est « Oh non, on ne veut pas être touché par toi ». Donc, il n'y a pas de contact. Pas de contact humain non plus. Et donc, vu ces circonstances, je pense que c'est pas difficile d'imaginer que c'est une femme qui se sentait très mal, très seule. Elle a beaucoup souffert. Elle a le moral comme ça. C'est une femme issue d'un milieu aisé. Le passage nous dit qu'elle a dépensé sa fortune. Donc, c'était quelqu'un qui avait quand même de l'argent à un moment donné. Mais au moment de cette histoire, financièrement, elle est au bord du gouffre. Parce que le passage nous dit qu'elle a tout dépensé. Et cet argent n'a plus rien apporté dans cette épreuve. Même le fait d'être quelqu'un d'un milieu aisé, bah, finalement, ça ne servait à rien. Parce que ça ne pouvait pas apporter le lien dont elle avait besoin. Alors, physiquement, forcément, elle était faible. Elle souffrait probablement d'anémie. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà passé par là, mais essoufflement, fatigue, vertige, on n'est pas bien. Et son traitement n'avait fait qu'empirer les choses. À cette époque, j'imagine que vous savez déjà qu'un traitement préféré, c'était de saigner les gens. Donc, super, pendant 12 ans, on perd du sang. Et puis, traitement des médecins, on va enlever un peu plus pour voir si ça aide. Donc, c'est pas très... On ne sait pas si c'était que ce traitement-là, mais c'était quelque chose qui était très répandu à l'époque, donc on peut imaginer. Donc, toutes les solutions que le monde, à cette époque-là, aurait pu apporter, ne servaient à rien, et en fait, ça rendait les choses encore pires. Donc, si on résume là, elle n'a plus de famille, plus d'amis, plus d'argent, plus de santé, plus d'espoir. Alors, peut-être vous avez à un moment donné passé par un ou deux ou même tout de ces choses-là. Mais ça, c'est la femme dont on parle aujourd'hui. Et elle n'a plus d'espoir jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus. Elle entend parler de ce qu'il fait, de comment il parle. C'est une femme juive, Donc, à un moment donné, elle a sûrement entendu la prophétie dans l'Ancien Testament qui faisait référence au fait que quand ce Messie, ce venu du ciel, cet envoyé du ciel venait, qu'il pouvait guérir, il portait la guérison dans la frange de son vêtement. C'est en Malachie, si ça vous intéresse. Et donc, elle se dit, avec tout ce que j'ai entendu, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, ce Jésus, qui est le Sauveur. Et si c'est le cas, si c'est vrai, je peux toucher la frange de son vêtement et je serai guérie. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on entend cette prédication-là, c'est pour nous encourager dans notre foi. Parce que justement, c'est l'idée de saisir ce qui est dans la parole et d'agir en fonction. Et elle se dit, malgré tous les freins potentiels, je vais contaminer les autres, je ne devrais même pas être présente dans la foule. Parce que là, je touche les gens et c'est interdit. Mais je ne peux pas rater cette opportunité. Et comme nous voyons dans l'histoire, c'est exactement ce qui se passe. Exactement ce qui se passe. Elle avait raison. C'est bien lui, ce Messie, ce Sauveur envoyé du ciel. Et elle a son résultat. Elle a sa guérison. Et c'est la conséquence de sa foi en action. Et elle peut maintenant retrouver sa place en société. Elle peut participer dans la vie de sa communauté sans problème. Elle ne va plus contaminer personne. Donc, il n'y a pas de raison pour les autres d'avoir peur de passer du temps avec elle. Elle ne sera plus faible, elle ne sera plus fatiguée à faire boucler. C'est bien, non? Voilà, j'ai terminé mon prêche. Non, je n'ai pas terminé mon prêche. Sauf que pour Jésus, ce n'est pas fini. Elle a ce qu'elle a cherché. Mais Jésus dit, ce n'est pas fini. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus, il s'intéresse à la personne. Jésus, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses très impressionnantes. Et il fait encore aujourd'hui beaucoup de choses qui sont très impressionnantes. Et on a tous vu les témoignages, on a rencontré les personnes qui disent « Ah ouais, mais Dieu, il m'a guéri de ceci, cela, ou il a fait quelque chose d'incroyable. » Et là, on ne peut pas le nier. Mais finalement, c'est pas tant ça qui intéresse Jésus. Jésus, il est content que nous, on soit bien. Mais Jésus s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il sait que la partie physique, c'est une petite partie de qui nous sommes. Et le problème pour cette femme, c'est qu'elle a eu sa guérison, mais elle a fait exprès de s'approcher de Jésus par derrière, cachée. Elle avait de bonnes raisons pour rester cachée, parce que la société demandait ça, quelque part. Et elle savait qu'en le touchant, elle contaminait Jésus, selon les normes de la société. Et quelque part, elle a volé sa guérison. Elle ne se sent pas bien. Tu sais, quand vous avez quelque chose que, en fait, vous n'avez peut-être pas fait de la bonne manière, et on est content de l'avoir, mais il y a un petit goût amer, parce qu'on n'a pas vraiment fait... Exactement. Peut-être que vous n'avez jamais fait ça. Je vois deux têtes qui font ça et puis tout le reste. Dans le jugement sur moi. Ouais, c'est ça. Et Jésus, il sait qu'elle ne se sent pas bien. Parce que sinon, pourquoi intervenir? Si elle a eu tout ce qu'il lui fallait, pourquoi arrêter? Pourquoi continuer à demander qui l'a fait? Mais en fait, son corps est guéri, mais son cœur n'est pas tranquille. Et je pense que Jésus, il savait qu'elle allait partir en se disant, j'espère que personne ne m'a vu et j'espère que ça dure, parce que c'est vrai que j'ai ressenti un truc sur le coup, mais est-ce que demain, quand je me lève, est-ce que ça va être toujours là? Voilà, beaucoup de questions. Et elle se dit, peut-être j'aurais dû m'y prendre autrement. Peut-être qu'il y avait une autre manière, et si j'avais fait autrement. Et je sais très, très bien, on se pose beaucoup de questions, parfois. Et puis Jésus, il semble savoir qu'elle a volé sa guérison, quand même. Quand il commence à poser des questions à haute voix, c'est qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? C'était toi? Il regarde la foule. Il regarde la foule. Et si c'est comme mes classes, quand je donne cours, quand vous voulez une réponse, tout le monde fait comme ça. Parce que, oh, c'est très dangereux de croiser le regard du prof. Mais Jésus, il regarde. Il regarde dans la foule. Elle a peur. Peut-être qu'il va la démasquer devant les responsables de la communauté. Cette femme qui ne devrait pas être là, qui ne devrait toucher personne, elle est là au milieu de la foule. Et c'est les responsables. Et ils semblent savoir, même si elle a fait très discrètement. Quelque part, vaut mieux tout avouer. Parce que déjà, c'est fichu. Donc, je vais tout avouer. Et elle se présente toute tremblante. Et c'est vraiment ici où je veux poser les choses un peu. Car n'oubliez pas, elle ne sait pas comment Jésus va réagir. Elle ne sait pas. Nous, on a l'avantage de connaître toute l'histoire et tout le reste du Nouveau Testament, où on voit combien Dieu est bon. Mais si vous pensez à cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle a entendu? Moi, j'ai fait juste un petit survol des pages précédentes dans Marc. Et qu'est-ce qu'on voit de Jésus? On voit qu'il a le pouvoir de guérir. Donc là, elle a entendu. Elle dit, bon, ouais, je prends. Ça, c'est pour moi. Elle a entendu qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Donc, il peut guérir, il peut pardonner les péchés. Elle a vu aussi que tout le monde dit, oh, il est sage. Il est sage, il a une sagesse, il a une autorité. Où sort-il ses enseignements? Parce que franchement, c'est formidable. L'autre chose, c'est qu'il a été en colère avec les responsables de la synagogue. Donc jusque là, elle sait qu'il est puissant. Elle sait qu'il peut faire des choses incroyables, qu'il a une sagesse profonde, mais aussi qu'il peut parfois être un peu en colère. Donc elle ne sait pas comment il va réagir envers elle. Elle ne le connaît pas. Elle a entendu parler de lui, mais elle ne le connaît pas. Et en fait, souvent, lorsqu'on parle, je ne sais pas comment vous parlez de Jésus, mais souvent, c'est pour dire, ah, j'ai vu un tel truc, et c'était impressionnant, et c'était magnifique. Mais souvent, les choses qui sont un peu plus généralement très bien, on en parle moins. Si on est dans une réunion où Dieu nous a soulagés de quelque chose, et puis quelqu'un a été guéri d'un cancer, je peux quasiment vous garantir que vous allez parler plus du fait que quelqu'un a été guéri d'un cancer que le fait que Dieu m'a soulagé. Parce qu'on aime ce qui est impressionnant. Et donc, j'imagine que c'est un peu ça que cette femme a. Et c'est pour ça qu'elle est dans la peur. Elle ne sait pas que Dieu est gentil. Elle ne sait pas. Elle n'a pas entendu ça. Sinon, pourquoi être dans la crainte? Pourquoi être toute tremblante? Peut-être Jésus va même reprendre sa guérison parce qu'elle ne l'a pas fait correctement. Elle n'a pas suivi le protocole. C'est une réaction possible. Il était en colère avec les responsables à la synagogue. Peut-être, qui sait? D'accord? Donc, elle a des doutes. Donc, elle a peur. Elle se jette à ses pieds et elle explique. On peut imaginer un peu le blou, comme ça sort. Ben, j'étais sûre que c'était toi le Messie, envoyé du ciel, j'étais sûre. Et que tu pouvais me guérir, et il suffisait juste que je te touche là aux franges de ton vêtement là. Et ça fait si longtemps que je veux me sentir bien. Ça fait si longtemps. Je suis malade, et je suis faible, et je suis exclue, et je suis triste, et je suis sans espoir. Et voilà, et cela a marché, et je suis guérie, et je suis désolée si j'ai mal fait. On peut imaginer un peu, elle se met un peu dans ça. Le passage nous dit qu'elle lui dit toute la vérité. Donc tout ce qui s'est passé et tout ce qu'elle ressent à ce moment-là. Puis elle attend la réponse de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Ben, nous, on sait. Mais pour la femme, c'est la découverte de qui est Jésus. Il parle si gentiment. Il est si rempli d'affection pour elle. Il sait qu'elle est guérie parce qu'il l'a ressenti. Il dit, j'ai la force est sortie de moi et je sais qu'il y a une sortie de guérison. Donc la guérison, c'est fait. Donc ce qu'il fait maintenant, il fait quatre choses. Première chose, il l'accueille très chaleureusement. Il dit, ma fille. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu n'es pas exclu. Ça veut dire que tu es membre de cette communauté. Il parle à l'exclusion. Ma fille. Et c'est très intéressant. J'ai regardé les autres interactions que Jésus avait avec les femmes. Et les hommes, d'ailleurs. Et c'est la seule fois dans toutes ses interactions de guérison ou autre avec les femmes, où il dit « ma fille ». Normalement, lorsqu'il parle avec les femmes, il dit « bon, madame ». Madame, qu'est-ce qui se passe? Voilà, madame, votre fille est guérie, mais qu'est-ce qui fait ici, ma fille? Et c'est intéressant que le seul, je veux vraiment souligner le point, parce que c'est pas anodin. Le seul autre fois où Dieu intervient dans ce genre de cas avec un homme, qui est aussi exclu par sa maladie d'une rencontre rapprochée avec Dieu, il dit, mon fils. Donc, on a des, il y a un principe là. Et c'est le principe que Dieu parle à l'exclusion. Et il dit, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il l'affirme. Il dit, tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait la bonne chose. Venir me chercher dans ton état désespéré, en croyant que je pouvais transformer la situation, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est le seul protocole qui compte. C'est le seul protocole qui compte. S'il faut que tu crois que je peux transformer les choses. Ça, c'est le protocole qui m'intéresse. Deuxième chose. Troisième chose. Il la rassure. Il dit, tu es guérie. Tu es guérie. Tu l'as senti, moi je l'ai senti, je confirme. C'est pas quelque chose qui va disparaître demain. Tu ne vas pas te réveiller demain en se disant, est-ce que ça va aller aujourd'hui? Non, tu es guéri. Donc, c'est déjà, il y a le fardeau qui... Je souffle bien. Donc, Jésus ne va pas la punir parce qu'elle a volé, entre guillemets, sa guérison. Parce qu'elle n'a pas respecté la bonne manière de faire. Il l'accueille, il l'affirme, il la rassure. Et puis, la quatrième chose qu'il fait, c'est de mener sa restauration à bout. Physiquement, ça va. Physiquement, ce qui était nécessaire a été fait. Et puis, moralement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va en paix. Va en paix. En fait, il y a une traduction que j'aime beaucoup. C'est de la parole vivante, je pense que ça s'appelle. C'est « Va-t'en tranquille ». J'aime bien ça. C'est « Va-t'en tranquille ». Tranquille. OK? Il n'y a pas de poids à porter là. C'est « Hop, je lève tout ce qui... » On a entendu parler des sacs à dos. Il y a des fardeaux qui pèsent sur nous. Et Jésus veut nous dire « Va-t'en tranquille ». Va-t'en tranquille. C'est quelque chose, cette histoire, ce n'est pas tant une histoire de guérison physique qu'une histoire de restauration complète. Je vous ai déjà dit dans le passé, quasiment à chaque fois que je prêche, que ce mot qu'on utilise beaucoup dans l'Église, le salut. Le salut. En fait, la base de ce mot-là, c'est l'idée de rendre entier. C'est de rendre entier. Souvent, on l'utilise pour parler de, voilà, cet avenir avec Dieu. Et ça en fait partie. Mais Dieu, l'idée pour Dieu du salut, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une restauration de tout notre être intérieur, de notre âme, de notre esprit. C'est le rachat de nos pensées, de nos émotions, de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est notre salut. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on vit notre salut de jour en jour. Ce n'est pas un événement comme ça, où hop, salut. Non, salut. Salut, non, salut. Non. Notre salut, c'est l'acte où Dieu intervient dans nos vies pour nous rendre entiers. Pour nous rendre entiers. Et ça, c'est important pour Jésus. On voit dans cette histoire-là. Si ça peut arriver, c'est parce qu'on rentre dans son ordre pour notre vie. Si on peut avoir l'intelligence, les pensées, notre âme, notre esprit racheté, c'est parce qu'on entre dans son ordre pour notre vie. Et c'est pour ça que Dieu s'intéresse tellement à cette femme. Parce qu'il y a beaucoup plus que le côté physique. Elle a été guérie, top. Maintenant, on va faire l'essentiel. Parce que finalement, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes. Je veux juste faire une parenthèse. Parce que Jésus a fait une parenthèse. Parce que cette histoire, c'est une parenthèse. Ça commence comment? Avec un homme qui s'approche de Jésus pour dire « Ma fille est en train de mourir. La situation est urgente. Il y a une petite fille en train de mourir. Il y a un responsable parmi la communauté qui est venu et qui se jette aux pieds de Jésus. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien ça c'est grave. Les Juifs, en général, faisaient très, très attention. On ne se jetait pas aux pieds de n'importe qui, parce que le fait de se mettre à genoux devant quelqu'un pouvait être interprété comme une adoration. Et donc, c'est vraiment pas... Cet homme-là, on parle souvent de la femme, de la foi de la femme, mais la foi de l'homme, ici, Jairus. C'est énorme. C'est quelqu'un de haute standing dans la communauté. C'est quelqu'un qui a une... Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette aux pieds de Jésus. Parce que lui aussi, il est dans un état désespéré. Ma fille va mourir. On a cette fille entre la vie et la mort. On a le Père qui s'humilie. Et il y a Jésus qui part direct avec lui. Et ensuite, on a notre histoire qui intervient. Alors, je me mets à la place de Jairus, là, le papa. Ben, imaginez un instant. Voilà. Votre fille est en train de mourir. Vous avez supplié Jésus de venir. Et puis il arrête pour faire un peu mener son enquête dans la foule. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché? Qui m'a touché? Jairus ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre que Jésus veut toucher en même temps. Pour lui, c'est ma fille et c'est tout ce qui compte. Et j'imagine aussi l'entourage de Jésus. Parce que jusqu'à là, le ministère de Jésus, il a guéri beaucoup de monde, il y a eu un peu de conflits avec les chefs des synagogues. Et enfin, il y a un responsable de la communauté juive qui vient supplier Jésus, qui reconnaît son autorité. Mais quelle opportunité marketing! Non, mais c'est ça. C'est, jusqu'à là, c'est les pauvres, c'est les faibles, c'est les nuls, c'est les, voilà, c'est, qui vient à Jésus. Et enfin, il y a quelqu'un qui peut un peu faire monter la réputation de Jésus et voilà, donner un tamponné, un peu officiellement. Et qu'est-ce que Jésus fait? Ben, il arrête en mi-parcours. Et j'imagine que les disciples, ils étaient peut-être là en train de dire, ouais. Non, mais Jésus, c'est bon, hein. Il y a du monde. On voit. Les disciples lui disent, non, mais il y a une foule. Il y a une foule. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Ben, bien sûr, quelqu'un t'a touché. T'es entouré. On peut y aller, maintenant? Et puis, il y a la femme qui se dit, oh, j'ai été guérie. Et les disciples sont encore super. Alors, la femme s'est guérie. Allez, on passe au, c'est bon. Encore un petit truc de pub. C'est très bien. Là, ta réputation, ça gonfle. Et non, mais Jésus ne lâche pas. Il ne lâche pas l'affaire. Et il y a ce VIP qui attend. Et puis il y a les gens de la maison du VIP qui arrivent. Et trop tard. Non, mais Jésus, tu as raté ton coup là. Tu as raté. Là, tu avais vraiment l'occasion de faire quelque chose qui allait faire flamber, voilà, le Messie, il est là, il revient, il commence à faire ce qu'un Messie doit faire, et tu as raté ton coup parce que tu voulais savoir qui t'a touché dans la foule. Et c'est trop tard, et maintenant, voilà, c'est trop tard, la petite fille est décédée, et, bien sûr, nous on connaît la suite de l'histoire, mais imaginez ce que ça fait à Jairus. Pourquoi est-ce que cette femme est plus importante que ma fille? Parce que lui, il ne sait pas que Jésus va aller chez lui et ressusciter sa fille. Nous, on le sait. On dit, oh, patience, Jairus, ça va aller. Mais lui, il ne sait pas. Et je pense que souvent, on oublie dans ces histoires que nous, on connaît toute l'histoire. Et qu'est-ce que Jésus entend ces paroles? Ces gens qui viennent de la maison de Jairus, ils parlent même pas à Jésus. C'est, Jairus, on y va, c'est trop tard. C'est trop tard. Et peut-être Jairus, il était sur le point de partir. Parce que ce n'est pas marqué que Jairus a dit à Jésus, mais est-ce que ça vaut la peine quand même que tu viens? C'est trop tard. À quoi bon importuner le maître? On le dérange maintenant. À quoi bon? Mais Jésus, il aime être dérangé. Il aime être dérangé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, crains pas, crois seulement. Donc, tout de suite, il y a les paroles qui disent, non, 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 je sais que tu crois que c'est fini. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Et donc, cette histoire, cette femme, c'est une parenthèse. Et comme je dis, peut-être ça durait 15 minutes, peut-être même pas 15 minutes, peut-être 10 minutes. Mais ça nous parle de la gentillesse de Jésus. Jésus sait parler, il sait parler à nos cœurs avec la tendresse. Il sait ce qui ne va pas, il sait quelles sont les paroles qu'il faut utiliser. Il savait dire, ma fille, il savait dire, tu as bien fait de faire ce que tu as fait. Il savait dire, tu es guérie. Et puis, à la fin, quand il dit, sois guérie de ton mal, là, il n'est plus en train de parler de son corps, parce qu'il a déjà dit, tu es guérie. Quand il dit, sois guérie de ton mal, de ta souffrance, c'est pas à son corps qui parle, c'est à elle en entier. Sois guérie de ta souffrance, tout ce qui a pesé sur toi, tout ce qui t'a écrasé pendant ces 12 ans d'exclusion, de désespoir, là où ça n'allait pas. Sois guérie de tout ça, parce que Dieu s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois plus, je dirais. Parce qu'il sait que qui nous sommes, ça commence à l'intérieur. Et c'est génial d'avoir les guérisons. Mais on ne peut pas mettre les guérisons physiques au-dessus de ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nos cœurs. Et je sais que nous sommes plusieurs à avoir été guéris de certaines choses physiques. Moi, j'en fais partie. Mais j'avoue que ce que Dieu a fait pour moi dans mon intérieur, c'est encore plus fort. Ce qui est intéressant, et je veux un peu boucler les choses avec ça, c'est que Jésus, il remplit même les parenthèses de la vie avec sa gentillesse. Même les parenthèses, même les choses qui ne sont pas importantes. Même les choses qui ne semblent pas être aussi importantes qu'une petite fille qui est en train de mourir. Jésus, il sait regarder cette petite situation-là pour dire, maintenant je vais te montrer ma gentillesse. Jésus n'est pas trop pressé. Il n'est pas trop pressé ou trop pris par ces choses importantes pour montrer de la gentillesse et de la douceur. Et pendant tout son ministère, et ça c'est un autre point intéressant que j'ai découvert en préparant ce que je fais là, c'est que la seule fois que Jésus se décrit lui-même, son caractère, en parlant clairement de comment il est, c'est pour nous dire qu'il est doux. Parce que parfois on est tellement impressionné par ce qu'on a vu qu'il fait, que Jésus a besoin de dire, non mais je suis doux. Oui, je suis puissant. Je suis très puissant. Oui, je suis sage. Je suis très sage. Ça, tu vois. Mais peut-être il faut que j'insiste sur le fait que je suis doux. Je suis doux et je suis humble de cœur, il dit. Doux et humble de cœur. Et c'est la seule fois qu'il parle lui-même de son caractère. Et c'est comme si pour souligner, c'est n'oublie pas, dans tout ce que tu vois de ma puissance, dans tout ce que tu vois de mon rôle, de ma fonction, de ce que je peux faire sur une grande échelle. N'oubliez pas que je suis doux. Et je pense que nous oublions parfois, quand nous lisons la liste du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses-là, je pense, parfois on est tellement occupé par le fait que oui, il faut que je grandisse là. On oublie en fait que ce passage-là, ça décrit Jésus. Parce que ce sont le fruit de l'esprit et c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Jésus. Et on a besoin parfois de, plutôt de regarder cette liste-là et se dire, oh, comment est-ce que je peux être plus ceci, cela? Peut-être que si on regarde Jésus un peu plus, On voit comment c'est modélé. On voit comment faire, en fait. Parce que, alors, comment est-ce qu'on montre la douceur? Comment est-ce que je peux être doux? J'ai entendu une fois une très drôle prédication par Christian Robichaud qui parlait de son problème avec la douceur. et comment il faut que je sois doux. Il y avait les post-it partout sur son bureau parce que tout le monde lui disait qu'il était un peu dur, un peu. Et donc il avait mis sur son téléphone un petit post-it. Sois doux. Et en fait, il s'est rendu compte, il raconte très bien, je ne vais pas tout répéter, mais en fait, finalement, ce qui s'est passé, il a abandonné parce qu'il était tellement découragé, parce qu'il n'arrivait pas à être doux. Et puis, il a juste dit, il faut juste que je passe plus de temps avec Jésus. Et puis, sa secrétaire, qui lui dit, mais je ne sais pas ce qui t'arrive là, mais tu es beaucoup plus doux. Et il a dit, tous mes efforts avec mes post-it, en fait, ça marchait pas. Ce qu'il fallait, c'est passer plus de temps avec Jésus. Parce que plus on passe de temps avec Jésus, plus on va s'imprégner de ces choses-là qui sont l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus, ça, qui, gentiment, il nous donne. Donc, ça commence avec Jésus et on voit la douceur. Et donc, juste pour terminer, en Romains 2, on lit que c'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. C'est la bonté de Dieu, c'est la gentillesse de Dieu, c'est comment il a été bon pour nous qui nous mène à la repentance. Alors parfois, peut-être nous avons entendu beaucoup de bons arguments, et peut-être nous avons beaucoup souffert, et on est à la recherche d'une solution, comme cette femme-là. Peut-être on se sent coupable de quelque chose, on a peur du jugement. Et ce sont tous des choses qui peuvent nous ramener vers de Jésus. Mais la chose qui veut faire que notre repentance soit accomplie quelque part, c'est quand on reconnaît la bonté de Dieu. Et quand on, ce n'est pas la peur qui va t'amener finalement à Jésus. Parfois, on fait les premiers pas comme ça parce que c'est, oh, je regarde ce que j'ai fait, comment est-ce que Dieu, il va me... Mais en fait, c'est quand on voit la gentillesse de Jésus, la bonté de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, comment il a ouvert la voie, comment il est mort pour nous sur la croix. On parle souvent de l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est vraiment un grand terme. Mais l'amour est gentil. L'amour est gentil. Ce n'est pas l'amour. Ils sont horribles, mais je vais mourir pour eux quand même. Ça, c'est sacrificiel, c'est vrai. Mais l'amour est gentil. C'est, non, je me donne pour eux. Par ma gentillesse, par ma bonté. Parce que je veux qu'ils soient rétablis. Donc cette bonté de Dieu, cette gentillesse de Dieu, on a besoin, si on a jamais connu la gentillesse de Dieu. Je veux vous donner l'occasion de demander ça ce matin. Que Dieu vous montre sa gentillesse. Vous savez que il y a de bons arguments. Jésus est la solution quand on est dans la souffrance. Ça, c'est clair. Il y a sûrement les choses dans nos vies qui déplaisent à Dieu. Et il faut reconnaître ces choses-là. Mais c'est la bonté de Dieu, c'est la gentillesse de Dieu qui va nous mener à changer notre manière de penser, à nous mettre en règle avec la manière de Dieu de penser. La Bible appelle ça la repentance. Mais on a tous besoin de passer par là. Je veux faire deux choses. Première chose, alors je sais qu'on a quelques invités là. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez jamais connu, peut-être que vous avez entendu parler comme cette femme, mais vous avez une image un peu floue ou un peu biaisée vers le Père Fouettard de Dieu. Si vous avez entendu parler de Dieu, mais vous ne le connaissez pas, je veux vraiment vous encourager à répondre ce matin et de venir pour qu'on puisse prier avec vous, afin que vous puissiez connaître la gentillesse de Dieu, ce qu'il a fait pour vous dans votre vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu nous appelle. On a vu avec le fruit de l'esprit, que nous sommes appelés aussi à être gentils, comme on a vu là. Et nous avons besoin de démontrer la gentillesse de Jésus autour de nous. Alors, il y a les gens qui sont naturellement un peu plus axés personnes que d'autres. On est tous appelés à être gentils. Tous. Il n'y a personne ici qui a le droit d'être dur avec les gens. Et donc, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont envie de grandir dans leur capacité de montrer la gentillesse de Dieu. Ça peut être compliqué, surtout dans les situations familiales, soit professionnelles. Parfois, je parle encore en tant que prof, tu es tellement préoccupé par la gestion de maîtrise de soi et de la patience que parfois la gentillesse, ça diminue. Il y a des pressions de la vie qui fait que on ne prend pas toujours le temps d'être gentil. Mais comme Jésus a pris le temps d'être gentil, nous aussi, on a besoin de le faire, de connaître la douceur de Dieu. Parfois, ça arrive simplement parce qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes. Parce que la gentillesse, c'est aussi le fait de reconnaître quelque chose chez quelqu'un d'autre, où il faut une parole, où il faut un geste, où il faut juste arrêter de penser à moi un peu et me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus a fait avec cette femme-là. Ma fille, il savait qu'elle se sentait exclue. Tu as fait la bonne chose. Il savait qu'elle se posait des questions. Est-ce que j'ai fait comme il fallait? Tu es guérie. Il savait qu'elle était inquiète pour ça. Donc, c'est aussi une capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et Dieu veut qu'on puisse tous fonctionner comme ça. Parce que moi, je veux qu'on soit des gentils chrétiens. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, qui vous avez entendu parler, mais voilà, maintenant, vous vous dites, en fait, cette gentillesse, ça m'appelle. Dieu a été gentil avec moi, sa bonté, sa douceur. Je veux le connaître plus. Comme on a chanté, je veux le connaître plus. Alors, je vous invite à venir, tout simplement. Et si vous êtes dans cette deuxième catégorie, où vous voulez grandir dans votre capacité d'être gentil vers les autres, je vous invite simplement à fermer les yeux et je vais prier et je veux que vous receviez ce que je vais prier. Seigneur, merci pour ta gentillesse. Merci pour ta gentillesse, Seigneur. Tu ne pensais pas à toi-même. Tu es mort sur la croix pour nous. Ça, c'est ta grande gentillesse. Mais Seigneur, tant de parenthèses de gentillesse. Ce qu'on voit dans la Bible, mais aussi, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies aussi. Tant d'exemples de gentillesse. Et Seigneur, nous voulons d'abord dire merci. Et Seigneur, maintenant, nous demandons pardon pour les moments où on a été trop pressés, trop frustrés, trop en colère peut-être, trop focalisés sur nous-mêmes pour montrer de la gentillesse envers les autres. Et Saint-Esprit, maintenant, nous t'invitons à venir. Comme un vent puissant souffle maintenant. Semez un esprit en nous qui sait reconnaître la détresse des autres. Qui sait reconnaître quand quelqu'un a besoin d'une parole gentille, un geste gentil, un mot doux, un encouragement. Seigneur, ça ne nous coûte rien, mais ça révèle ta gloire. Et nous voulons être des vases remplis de ta gloire, remplis de qui tu es. Débordant de toutes bonnes choses qui viennent de toi. Et donc la douceur, Seigneur, ta douceur, nous avons besoin de ça. Ta bonté que tu nous as montrée, Seigneur, comme nous avons reçu, nous voulons pouvoir donner aussi. Remplis-nous, Seigneur, d'un nouvel esprit de gentillesse, afin que le monde puisse savoir qui tu es, puisse voir la tendresse de Dieu, puisse être attiré par ta bienveillance. Et donc, Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant. Nous t'accueillons maintenant avec cette douceur qui vient de toi, avec cette tendresse qui vient de toi, pour mieux révéler ta gloire. Au nom de Jésus.